Merci Maïlys, à demain.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour et merci de nous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série barcelonaise. Toute l'équipe vous salue bien. Laurence Genepin, Laurence Millet, Milena Elig, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurane Travaglichanal et Youtou Diego Aclopez. Barcelone et ses écrivains, donc, c'est le paysage dans lequel évolue la compagnie des auteurs jusqu'à jeudi, à l'occasion de la sortie du livre consacré à cette ville dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, livre qui propose une partie historique, mais aussi des balades, des textes d'écrivains et un dictionnaire barcelonais. Nous l'avons vu hier avec Pierre Ducrozet, son maître d'œuvre, en même temps que la géographe Sophie Savary nous parlait de l'imaginaire littéraire de la capitale catalane. Demain, nous nous arrêterons sur le parcours d'un écrivain en particulier, Manuel Vázquez Montalbán. Ce sera d'abord avec Michel Gazier, puis avec Daniel Vázquez qui est retourné avec nous sur les lieux de son père. Enfin, jeudi, deux entretiens. D'abord, une rencontre avec l'écrivain Javier Cercas pour parler de la Catalogne, mais également de sa conception du roman. Et puis, en seconde partie, nous serons avec le penseur et écrivain catalan Rafael Argullol. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, nous vous proposons de retourner sur les pas d'écrivains qui ont vécu un moment à Barcelone, plus ou moins longtemps, comme George Orwell, Jean Genet, Mandiargues, Bolaño et d'autres encore. Nous le faisons en balade avec Mathias Sénard et Pierre Ducrozet. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Mathias Sénard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez étudié le persan et l'arabe, vous avez fait de longs séjours au Moyen-Orient et vous voilà, comme c'est bizarre, à Barcelone.
Effectivement, j'habite ici depuis de nombreuses années maintenant, puisque je suis arrivé pour la première fois à Barcelone en 99 à peu près. J'en suis reparti ensuite à plusieurs reprises, mais disons que depuis le début des années 2000, ma résidence principale reste Barcelone.
Je crois qu'au début, vous aviez un peu de mal avec cette ville.
C'est vrai qu'au départ, Barcelone ne faisait pas du tout partie de mon imaginaire. C'était vraiment une ville que je ne connaissais pas, dans laquelle j'étais jamais venu. J'avais aucune attirance particulière, ni aucun intérêt, ni pour la Catalogne, ni pour l'Espagne. Et mes obsessions étaient vraiment de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est au contact de la réalité barcelonaise, de son histoire, que je me suis rendu compte que pour moi, c'était en fait le chaînon manquant, c'est-à-dire l'ouest de cette Méditerranée qui me passionnait tant, qui pouvait me faire comprendre un peu l'ensemble, justement. Et cette façade, donc le symétrique de Beyrouth, on va dire, si on replie la Méditerranée sur l'Italie, on met en contact Barcelone avec Beyrouth, me convenait absolument parfaitement. Donc ça, c'est venu un peu petit à petit.
Alors, vous avez parlé de Barcelone dans plusieurs de vos livres. Elle est évoquée, cette ville, dans Zone. Vous en parlez aussi dans un recueil de poèmes intitulé « Dernière communication à la société proustienne de Barcelone » que vous avez publié aux éditions Inculte en 2016. Barcelone en poésie, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça donne ?
D'abord, la société proustienne de Barcelone, dont je suis membre, qui existe et qui donne son titre à ce recueil. En fait, Barcelone en poésie, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord des poèmes très urbains, où justement on essaye de capter quelque chose de l'ambiance de la ville. Et principalement, un jeu sur sa diversité. C'est-à-dire que ce qui est absolument fascinant, et je pense qu'il fait un peu le grand intérêt de Barcelone pour tous ceux qui viennent, même juste pour quelques heures, c'est son immense diversité d'ambiance, d'endroits, de paysages. Qu'on soit un touriste qui aille à la plage, quelqu'un qui a envie d'excursion dans la montagne, ou au contraire un passionné d'histoire, de littérature ou d'archéologie, tout le monde trouve son compte à Barcelone. Voilà. Et c'est ce qui fait le grand succès de la ville. Et donc ce recueil de poèmes essaye de montrer un peu les différents aspects de la ville par des choses plus ou moins ludiques et d'autres un peu moins. Ouais.
Alors, tout à l'heure, on ira rue des Voleurs, parce que c'est aussi, évidemment, pour vous, un endroit qui a compté. Et vous avez écrit là-bas le roman qui s'appelle justement Rue des Voleurs. Mais si vous êtes là aujourd'hui pour faire cette balade avec nous dans Barcelone, c'est parce que vous avez participé au livre de Pierre Ducrozet. Vous avez donné notamment un texte qui s'appelle Carnet d'un Barcelonais d'adoption, où vous commencez par parler de la pornographie et même des putains de Barcelone, parce que la prostitution, c'est un sujet qui occupe beaucoup les esprits ici, paraît-il, Mathias Hénard.
Oui, qui l'a occupé en tout cas pendant un temps. Bon, maintenant, tout est un peu recouvert par les questions à propos de l'indépendance catalane et les questions politiques. Mais c'est vrai que Barcelone a été, pas que Barcelone d'ailleurs, la prostitution a été vraiment un sujet très important ici, puisque c'est de ces endroits d'Europe, vous savez, où les bordels, pour le dire crûment, sont encore légaux, et même parfois et souvent encouragés.
Et l'idée, c'est d'éviter que les prostituées soient dans les rues, donc on ouvre des bordels.
Au départ, oui, c'est un espèce d'hygiénisme du 19e siècle qui fait que les maisons closes permettent de contrôler les femmes et notamment les maladies, d'avoir à la fois un espèce de confort où les hommes ne sont pas vus comme clients et en même temps de pouvoir permettre à la police et à la médecine de mettre leur nez dans ce commerce. Et ça s'est perpétué, voilà. Et donc Barcelone est encore une ville où il y a énormément de bordels ou de maisons closes. Et ce qui est à la fois d'un romantisme un peu sinistre, au sens où beaucoup de jeunes Européens viennent s'encanailler dans ces lieux qui sont pas toujours gays, et puis qui provoque une espèce de grande mélancolie vis-à-vis de nos écrivains du 19e ou du début du 20e siècle, qui ont largement profité de cette prostitution.
Vous parlez des écrivains syphilitiques ?
Des écrivains syphilitiques ou qu'ils sont devenus. Pas que syphilitiques, hein, mais c'est vrai que dans tout l'imaginaire, c'est ce qu'on découvre en lisant le livre, notamment cette magnifique anthologie, la prostitution fait partie de l'imaginaire de Barcelone. Un peu comme les ports génèrent, que ce soit Gênes, avec sa fameuse aussi rue des putains, ou Marseille, ou Barcelone, ces ports de la Méditerranée, ou Alger à l'époque coloniale, ont généré voilà, cet imaginaire de la prostitution qui se poursuit même voilà, au début du XXIe siècle.
Alors Mathias Hénard, on va donc se promener avec vous et Pierre Ducrozet dans Barcelone, mais la première étape, elle est ici dans un square, qui est un square très tranquille, c'est aussi pour ça que vous l'avez choisi, puis c'est un square très littéraire, puisqu'il y a des bars qui sont les bars des écrivains. On n'a peut-être pas le droit de donner l'adresse, parce que si c'est le bar des écrivains, vous voulez peut-être garder ça secret, non ?
Oui, c'est le bar des écrivains, principalement des amis. C'est vrai qu'on se retrouve très souvent ici, on est dans le Raval, sur cette place Vicens Martorell, qui est très intéressante parce qu'elle montre bien ce qu'a été le quartier et ce qu'il est devenu. En fait, dans ce quartier, donc à côté des Ramblas, on est en dehors des murailles de Barcelone, et donc on est dans un quartier presque exclusivement ecclésiastique, où se trouvent énormément d'institutions religieuses, et ça jusqu'au 19e siècle. Donc des cloîtres, des monastères, des hôpitaux, toutes sortes de bâtiments.
On est même ici dans un ancien cloître, c'est ça ?
Voilà, exactement. Ici, on est dans un ancien cloître qui a été reconstruit, détruit, puis reconstruit dans les années 60, et où on a respecté un peu ces formes d'arcade pour montrer ce qu'était le cloître autrefois, et ce qui permet justement voilà, de faire des cafés avec des terrasses abritées. Et même s'il pleut pas souvent à Barcelone, ça permet de pouvoir être en terrasse quand même en hiver. Et donc il y a deux cafés, un qui s'appelle le D'Annunzio, donc vous voyez on est un peu dans la littérature, une magnifique librairie qui donne sur cette place, qui est une des plus belles librairies de Barcelone, et un bâtiment de la mairie. Donc on est vraiment dans un peu une espèce de sainte trinité.
Alors avec vous, Mathias Hénard, se trouve Pierre Ducrozet, que les auditeurs de la Compagnie des auteurs connaissent déjà depuis lundi. On va se promener avec vous également dans Barcelone durant cette émission. Vous avez choisi de parler d'abord d'un ancien cinéma qui est juste à côté d'ici. Alors on peut pas être vraiment devant parce que c'est trop bruyant, c'est sur la Rambla. Et c'est un cinéma que connaissait bien George Orwell. Alors il faut peut-être remonter un petit peu pour raconter l'histoire que vous voulez nous raconter à ce sujet-là, à 1936. 1936, c'est le moment où George Orwell arrive à Barcelone. Est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu tout ça en tête, Pierre Ducrozet?
Oui, alors il arrive en décembre 36 et il découvre une ville. Il vient là pour écrire des papiers pour les journaux britanniques. Et en fait, il va très vite s'engager parce qu'il découvre une ville absolument fantastique. Il vient de vivre ce qu'on appelle l'été de l'anarchie, donc une ville sans dessus-dessous, où tout le monde se tutoie, où il n'y a plus visiblement que des ouvriers.
Qu'est-ce qui s'est passé politiquement à ce moment-là?
Eh bien, les anarchistes ont pris le pouvoir, tout simplement. Donc depuis 6 mois, la ville est rouge et noire, et c'est-à-dire que les services ont été collectivisés, les prisons ont été ouvertes, les écoles. Il y a toute une chose qui se met en place qui est unique dans l'histoire du XXe siècle.
Et c'est ça qui lui donne envie de venir.
Il se trouve qu'il est là et il découvre cette ville de Barcelone. Il est fasciné et il se rendra compte quelques mois plus tard, du retour du front, qu'en fait, les ouvriers n'étaient peut-être pas que des ouvriers, c'était aussi des bourgeois déguisés en ouvriers. Il y a des scènes très très belles sur Barcelone qu'il découvre comme ça, et quand il revient quelques mois plus tard, il découvre la ville qui a été déjà renversée.
Et ça le gêne, ça, que les ouvriers soient en réalité, pour certains, des bourgeois déguisés?
Non, ce qui le gêne, ce qui l'attriste, c'est qu'il sent bien que le vent est en train de tourner, que cet été fabuleux de l'anarchie a duré quelques mois et qu'on est déjà sur le déclin. Bref, il part au front et il revient en mai 1937. Et il arrive juste pour les événements qu'on appelle les événements de mai 37. Donc ça commence le 3 mai et ça commence sur la place de Catalogne, qui est juste là au-dessus, la centrale téléphonique qui était aux mains des anarchistes de la CNT est attaquée par la garde civile et commence des événements très troubles où tout le monde, tout le monde est un peu confus, dans la confusion totale, parce qu'on ne sait pas qui est dans quel camp, etc. Et lui, il se trouve là et il est avec le POUM, il est dans les milices du POUM. Donc le parti ouvrier d'unification marxiste, donc
qui a été créé en 1935, donc juste avant.
Voilà, anti-stalinien, en tout cas en opposition avec le parti communiste officiel. Et donc il est réquisitionné pour défendre ce théâtre là de la Rambla. Il va passer 3 jours et 3 nuits sur le toit du théâtre à le défendre avec sa carabine, avec une cartouche de cigarette qu'on lui a donnée et quelques livres. Et
Donc il défend le théâtre lui-même ou il défend le POUM qui est installé juste en face?
Un des sièges du POUM qui est juste en face et contre surtout le café du Moca qui est juste à côté, qui lui a été pris par des gardes civils. C'est très complexe à comprendre, lui-même ne le comprend pas, c'est ça qui est très beau. C'est un livre absolument sublime, très drôle souvent, où il est là, il se fait tirer dessus par des gens mais il ne comprend pas bien s'ils sont avec lui, eux-mêmes ne savent pas trop mais ils tirent de temps en temps aussi pour passer le temps. C'est des scènes absolument, vraiment sublimes de l'histoire de la littérature, je trouve. Et donc, il décrit ça, il s'ennuie beaucoup, il lit aussi, il rentre dans ses livres, il n'en sort plus jusqu'à ce qu'il y ait une balle qui le frôle. Bref.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il raconte surtout que quand même passer 4 jours sur le toit du cinéma, c'est pas forcément très rigolo.
Il dit que c'est une des pires époques de sa vie, ouais. Il a faim, bien sûr, alors donc il y a ce soldat qui lui apporte des cigarettes, il n'a plus de cartouches au bout d'un moment. C'est une confusion, mais très, très belle. Qui malheureusement va devenir tragique, puisque on sait qu'en fait les événements de mai finissent par la prise de contrôle, en gros le POUM est déclaré illégal et en gros le parti communiste stalinien va prendre le contrôle de la ville.
Et pour Orwell, comment ça se termine?
Pour Orwell, ça se termine très mal, puisque, mais toujours dans la joie aussi dans le livre. Il retourne au front. Tout de suite, au bout de 2 jours, il prend une balle dans la gorge, il revient à Barcelone, et là, il va d'hôpital en hôpital, il est comme ça dans plusieurs endroits de Barcelone, jusqu'à ce que, en juin 1937, le POUM est donc déclaré illégal. Et là, il doit fuir par les Pyrénées avec sa femme, et il arrive à retourner en France, et finalement en Angleterre. Mais je voulais parler de ça parce que c'est pas pour moi, à mes yeux, le plus beau livre sur Barcelone. C'est un livre absolument...
Ça s'appelle Hommage à la Catalogne.
Hommage à la Catalogne. Mmh. Et c'est... Alors, on apprend plein de choses sur la guerre civile, on apprend plein de choses sur Barcelone et sur la Catalogne, mais c'est surtout... c'est une œuvre littéraire absolument... sublime, très... à la fois tragique et légère. Il y a quelque chose de charme absolu dans ce livre.
Quand est-ce que vous l'avez lu, Pierre Ducrozet, ce livre « Hommage à la Catalogne » ? Vous vous souvenez des conditions et de ce que vous vous êtes dit en refermant le livre ?
Je crois que je l'ai lu quand je suis arrivé ici, il y a à peu près 12 ans, enfin un peu plus tard. Et je trouvais que ça collait, il y avait quelque chose vraiment la Barcelone que j'ai connue n'a absolument rien à voir avec celle-là, bien sûr. Mais il a réussi, en tout cas ce qui l'a fasciné lui, c'était une sorte d'esprit barcelonais, de choses qu'il a vécues en 36 et en 37, que moi qui m'a beaucoup ému et touché.
Mathias Sénard, quand Pierre dit que la Catalogne que Orwell a connue n'a plus rien à voir avec celle qu'il connaît, je vous ai vu protester un petit peu silencieusement.
Non, pas protester, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on renvoie beaucoup dans les événements politiques actuels à cet imaginaire-là. On parle beaucoup de généralité en exil, de retour de la guerre civile. Donc c'est justement très sain de relire George Orwell pour voir à quel point les choses étaient différentes, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce moment d'histoire vu par Orwell est incroyable, parce qu'il a cette vision du dehors. Et donc, pour lui, il peut se permettre d'être ironique. C'est pas comme justement les auteurs catalans ou espagnols qui vont raconter la guerre civile d'une façon très différente. Pas forcément sérieuse, mais en tout cas, vu depuis l'intérieur, lui, il le voit comme tout simplement un Anglais ouvrier qui croit à sa cause, qui croit au trotskisme, qui vient pour se battre et qui se rend compte que tout ça n'est pas si simple. Et qui découvre, justement, quand il est seul sur son toit en train de se faire tirer dessus, par d'autres communistes.
Oui, par des communistes, par des guerres civiles, par tout le monde.
Il découvre que voilà, le désenchantement de la cause. Et c'est ça, c'est un peu une espèce aussi d'histoire. C'est l'hommage de la Catalogne comme étant au-delà de la cause qu'il a perdue et de la foi qu'il a perdue en Catalogne.
En fait, il comprend qu'il ne comprend rien. Alors, ce qui est un petit peu simple, c'est que d'un côté de la Rambla, bon, à peu près, on sait de qui il s'agit. C'est les anarchistes. Et de l'autre côté de la Rambla, on ne sait plus très bien ce qui se passe. Et du coup, dans la géographie de la ville, il y a une séparation, mais qui est une séparation pas très nette, c'est-à-dire une séparation dont finalement on n'arrive pas à déceler qui est d'un côté, qui est de l'autre.
Justement, ce qui est magnifique, c'est qu'on retrouve à l'époque ce qu'il y a encore aujourd'hui, c'est-à-dire la mixité des zones. C'est effectivement, les Ramblas, c'est une frontière, la Via Laietana, c'est une autre frontière. Il y a ces frontières en ville, mais elles sont perméables.
Et ce qui est très important, c'est ce que tu dis, c'est vraiment le début de la désillusion politique pour Orwell. C'est là où il comprend qu'effectivement tout n'est pas si simple et tout est corrompu, en fait, parce que le POUM, dirigé par André Ounine, est tout de suite poursuivi. André Ounine est torturé, massacré. Bref, pour lui, c'est vraiment Orwell, c'est un coup dur politique. C'est ça, c'est vraiment la fin des illusions pour lui.
Alors enfin, évidemment, le grand livre d'Orwell, c'est 1984. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on considère comme étant le grand livre d'Orwell. Peut-être que vous préférez, Pierre Ducrozet, l'hommage à la Catalogne, mais on dit que justement, il y a dans Hommage à la Catalogne les germes de 1984.
Ce serait peut-être justement précisément dans ce que je viens de dire, que c'est le début d'une vision peut-être plus un peu plus noire de politique, mais je ne sais pas si on peut comparer ça, c'est vraiment tellement différent, tellement. Mais 1984 est une œuvre splendide, c'est juste, je pense que c'est ça, c'est le début d'une. Voilà, il faut bien penser qu'il vient là plein d'euphorie et Barcelone est euphorique quand il arrive. Et 6 mois plus tard, c'est le début de la fin de la guerre civile, quoi. Donc c'est ça qui se passe.
Ouais. Après, il va partir en Aragon, vous l'avez dit, il va trouver des enfants qui se battent aussi. Il y a des enfants soldats espagnols.
Voilà, il décrit tout ça, oui, il décrit l'horreur de la guerre, évidemment. Mais il décrit surtout ce qui ressort de ça, c'est l'accueil des Catalans, c'est la générosité des Catalans, des Espagnols, de tous ceux qu'ils rencontrent au front. Il insiste beaucoup là-dessus, sur cette générosité de la Catalogne et de Barcelone.
Alors Pierre Ducrozet, Mathias Sénard, pendant qu'on se déplace jusqu'à notre prochain point de vue sur Barcelone, je vous propose d'écouter un extrait de En hommage à la Catalogne de George Orwell, lu par Jean Menot.
J'étais venu en Espagne dans l'intention d'écrire quelques articles pour les journaux, mais à peine arrivé, je m'engageais dans les milices, car à cette date et dans cette atmosphère, il paraissait inconcevable de pouvoir agir autrement. Les anarchistes avaient toujours effectivement la haute main sur la Catalogne et la révolution battait encore son plein. Sans doute, quiconque était là depuis le début devait avoir l'impression, même déjà en décembre et en janvier, que la période révolutionnaire touchait à sa fin. Mais pour qui arrivait alors directement d'Angleterre, l'aspect saisissant de Barcelone dépassait toute attente. C'était bien la première fois dans ma vie que je me trouvais dans une ville où la classe ouvrière avait pris le dessus. À peu près tous les immeubles de quelque importance avaient été saisis par les ouvriers et sur tous flottaient des drapeaux rouges ou les drapeaux rouges et noirs des anarchistes. Pas un mur qui ne portât, griffonné, le marteau et la faucille et les sigles des partis révolutionnaires. Il ne restait de presque toutes les églises que les murs. et les images saintes avaient été brûlées. Ça et là, on voyait des équipes d'ouvriers en train de démolir systématiquement les églises. Tout magasin, tout café portait une inscription vous informant de sa collectivisation, jusqu'aux caisses des cireurs de bottes qui avaient été collectivisées et peintes en rouge et noir. Les garçons de café, les vendeurs vous regardaient bien en face et se comportaient avec vous en égaux. Les tournures de phrases serviles ou même simplement cérémonieuses avaient pour le moment disparu. Personne ne disait plus « Seigneur » ou « Don » ni même « Usted ». Tout le monde se tutoyait, on s'appelait « camarade » et l'on disait « Salud » au lieu de « Buenos Dias ». Les haut-parleurs beuglaient des chants révolutionnaires tout le long du jour et jusqu'à une heure avancée de la nuit. Et le plus étrange de tout, c'était l'aspect de la foule. À en croire les apparences, dans cette ville, les classes riches n'existaient plus. À l'exception d'un petit nombre de femmes et d'étrangers, on ne voyait pas de gens bien mis. Presque tout le monde portait des vêtements de prolétaires ou une salopette bleue ou quelques variantes de l'uniforme de la milice. Tout cela était étrange et émouvant. Une bonne part m'en demeurait incompréhensible et même, en un sens, ne me plaisait pas, mais il y avait là un état de choses qui m'apparut sur le champ comme valant la peine qu'on se battît pour lui.
Autre lieu, Pierre Ducrozet, nous sommes à présent dans la Calle Thalers, toujours à Barcelone, numéro 45 de la Calle Thalers, ou disons juste à côté, parce qu'on s'est éloigné un petit peu du bruit. On est là pour évoquer une autre époque, c'est la fin des années 70, quand l'écrivain chilien Roberto Bolaño est venu s'installer à Barcelone et qu'il est allé s'installer dans cet immeuble-là qu'on voit au loin, au 45.
Oui, j'avais envie de passer par ce lieu-là parce que c'est un écrivain cher à mes yeux et à nos yeux, à tous, je crois. Il a beaucoup compté. Donc, il arrive en 77.
On peut redire qu'il est né en 53 et qu'il est mort voilà. À Barcelone.
Exactement.
En 2003.
Il a longtemps vécu au Mexique et il arrive pour la première fois en Europe en 77. Il ne va plus quitter l'Espagne. Il va vivre quelques années ici. Dans la misère la plus totale, il rejoint sa mère qui est malade et sa sœur. Il va raconter tout ça dans Les Détectives Sauvages, donc je le raconte aussi suite à ces lectures-là.
C'est son roman le plus barcelonais, peut-être.
Voilà, c'est ça, où sort le plus Barcelone. Ensuite, il trouve un emploi dans un camping de Castelldefels, donc juste à l'extérieur de Barcelone. Et il va vivre quelques années ici. Il écrit énormément, il vit dans le dénuement assez total. Il décrit ça bien dans Les Détectives Sauvages. Ils étaient 7 ou 8 dans une chambre et il y avait une douche sur le palier.
Ce qui n'est sûrement plus le cas aujourd'hui de ce quartier-là, qui est devenu un quartier, on en parlera peut-être, oui. Qui s'est gentrifié.
Voilà. Alors, pourquoi parler de Bolaño ? Parce que pour moi, c'est un peu le spectre qui hante la Barcelone contemporaine. C'est pour moi l'écrivain contemporain capital, même au-delà de Barcelone. C'est pour moi vraiment la figure centrale. J'ai l'impression qu'il a changé la donne, il a rebattu les cartes, il invente des formes littéraires nouvelles. Il y a toujours chez lui, et ça colle beaucoup à cette ville aussi, il y a une sorte de mystère un peu planant. On ne sait pas pourquoi on aime Bolaño, mais il y a toujours quelque chose d'une sorte de grâce. Pourquoi 2666 est si fascinant alors que parfois, il n'y a pas grand-chose, il y a des ombres, il y a une grâce. Je pense que ça vient du fait qu'il était surtout un poète, était avant tout un poète qui, au bout d'un moment, s'est mis au roman. Et c'est vraiment, on sent ça. Parfois, il écrit sans écrire, mais il a toujours quelque chose de... Vous savez, c'est comme chez Kafka, on ne sait pas bien pourquoi Kafka est si fascinant. C'est parce qu'il a des silhouettes comme ça, légèrement floutées. Bref, il a un art très, très difficile à cerner. Il essaye de renouveler le roman moderne, de lui donner une forme plus labyrinthique, plus éclatée, plus... qui colle vraiment à ce début du XXIe siècle. Et pour moi, il est central, et pas que pour moi, pour tous les écrivains qui vivent à Barcelone. Il a été très ami avec Javier Cercas, avec Vilamatas. Tous les écrivains de Barcelone l'ont lu, l'admirent souvent, le côtoyait quand il était là. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous tous.
Alors pour vous, c'est aussi une ombre projetée sur votre travail d'écrivain barcelonais. C'est aussi une statue peut-être difficile à regarder en face,
non,
Pierre Ducrozet.
Non, ça n'inhibe pas, ça donne de la force et de l'élan plutôt d'avoir Bolaño pas très loin comme ça.
Et vous alors, Mathias Sénard, puisqu'on est ici juste à côté de là où Roberto Bolaño a vécu, qu'est-ce que vous auriez envie de raconter sur lui et son rapport peut-être avec la ville de Barcelone ?
Non, c'est surtout quelqu'un qui a été extrêmement important pour toute une génération d'auteurs. C'est-à-dire qu'au moment où moi j'arrive à Barcelone, il fait paraître en Espagne et il reçoit un très grand prix pour le livre Les Détectives Sauvages. Et c'est vraiment quelque chose qui, tout d'un coup, irrigue le panorama espagnol de façon assez peu commune. C'est vraiment...
Donc il a changé la littérature.
Oui, bien sûr. Déjà, il fait un roman de 900 pages sur la poésie. Rien que cette idée, que d'histoire de poète, de faire de l'épopée avec comme matière la poésie en elle-même, c'est tellement improbable à la fin du XXe siècle que c'est une véritable révolution. Et c'est drôle, c'est une vision du monde extrêmement particulière. C'est un grand voyage qui commence au Mexique, mais qui parcourt la planète entière. C'est la multiplication des formes de narration. C'est des personnages extraordinairement attachants. Et c'est une verve, une langue, une ironie, une puissance, une autodérision qui sont absolument magiques. Donc ça on prend ça, mes amis et moi, tous les gens qui participons à ce petit milieu littéraire de la jeunesse de Barcelone, comme un coup, un choc, et en même temps, une espèce de bouffée d'air frais absolument incroyable.
Mais par exemple, dans vos livres, qu'est-ce que vous n'auriez pas écrit exactement pareil si vous n'aviez pas lu Roberto Bolaño ?
Bah rien, sans doute. Puisque moi, je lis ça avant de me mettre à écrire moi-même. Donc, très certainement, j'aurais sans doute rien fait de la même façon. J'aurais été beaucoup moins libre. Finalement, qu'est-ce que c'est que apprendre à écrire ? C'est une histoire d'apprentissage de la liberté. Et Roberto Bolaño nous donne un peu de cette liberté-là. Il nous montre que beaucoup de choses que j'aurais même pas imaginées sont possibles.
On continue notre promenade ?
Allons-y.
Alors Pierre Ducrozet, on est à présent à la bibliothèque de Catalogne, dans l'ancien hôpital de Santa Creu, c'est comme ça qu'on prononce.
C'est ça.
Pourquoi cet endroit ?
Bon, déjà pour la première raison, c'est un endroit absolument magnifique.
Quelle impression elle donne cette place ?
Alors donc il y a au centre il y a des orangers. Qui fleurissent avec une petite fontaine au milieu, et il y a toute cet ancien hôpital donc qui ceint la place avec des arcades là. Enfin, c'est très très beau là. En plus, la nuit commence à tomber. C'est vraiment ce qui me plaît dans ce lieu. C'est quelque chose de très unique à Barcelone. C'est la confluence de plusieurs populations, de plusieurs flux. Alors, donc il y a les étudiants de la Massana, des Beaux-Arts, il y a les usagers de la bibliothèque, il y a tous les gens qui vivent dans la rue, qui vivent dans le Raval, qui souvent sont là sous les arcades, il y a des gens de passage, il y a des touristes, il y a plein de populations qui arrivent à cohabiter de manière assez unique. Je connais quelqu'un qui est là, qui est qui est dans les services sociaux de la ville et qui est là pour s'assurer que tout fonctionne, parce que parfois quand même, enfin quasiment tous les jours, il y a des petits échauffourées comme ça, parce que c'est un lieu quand même, un nœud de la ville où ça peut parfois déraper, mais ça se passe toujours très très bien.
Et puis il y a même des musiciens, on n'a pas fait exprès de leur demander de jouer de la musique hispanisante pour la couleur locale.
Ils le font pour France Culture,
ils le font, spontanément, voilà.
Et donc c'est pour ça. Alors c'est pour ça que ce lieu m'intéresse, et parce que c'est un point central du Raval dans lequel on est, où tout converge. Et puis il y a une sorte de, tout d'un coup, c'est pas un hasard qu'il y ait cette musique, cette guitare andalouse qui résonne. Il y a un côté comme ça, peut-être même du sud de l'Espagne, tout d'un coup, avec ses orangers.
Donc c'est la bibliothèque de Catalogne, ça veut dire que c'est tous les textes catalans, mais pas forcément en langue catalane, qui sont
tout,
rassemblés.
Mais il y a tous ces archives, effectivement, de la littérature catalane, mais absolument tout ce que vous voulez. C'est la BNF de Barcelone. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais venir là. C'est ce petit îlot de calme et de fraîcheur au milieu du Raval, qui est quand même un quartier hyper mouvementé, hyper joyeux, hyper vivant. Et là, il y a ce lieu un peu entre deux eaux que j'aime beaucoup.
Alors, Mathias Sénard, qui a tendance à partir un petit peu pour faire ses propres visites, tout d'un coup, voilà, Mathias... Vous étiez parti où ?
Non, je profite juste de l'ambiance de la place et de cet endroit. Voilà.
Alors ici, on n'est pas très loin de la Carrère Carmen.
Non, qui est juste là, en fait. Oui, bien sûr. Ici, on est entre deux rues, la rue rue des Carmes, on dirait, chez nous, donc la calle El Carmen, et la rue de l'Hôpital, la rue de l'Hôpital. Donc on est vraiment toujours dans cette ambiance extrêmement de bâtiments, principalement monastiques. Ouais.
Alors j'évoque la calle Carmen parce que on dit que Jean Genet aurait vécu dans cette rue-là. Il avait 23 ans à peu près quand il a passé quelques mois ici à Barcelone.
Oui, ben ça c'est. Disons qu'il faut toujours, comme toujours chez Jean Genet, il y a deux personnages. Enfin, il y a le personnage tel qu'il se raconte dans le fameux journal du voleur, où une grande partie se déroule à Barcelone, et notamment, disons, entre le port et la Gran Vía, c'est-à-dire exactement dans le quartier où on se trouve aujourd'hui. Et puis la vie réelle de Jean Genet, dont on n'arrive pas forcément très bien à reconstituer. Toujours, hein, tous les tenants et aboutissants. En tout cas, ces biographes ne sont pas toujours d'accord. Les biographes aussi du quartier, même, qui sont intéressés vraiment à l'histoire du quartier, qui a toujours été un peu un quartier interlope, de bas-fonds, de cabaret, de prostitution, de très grande liberté de mœurs, où Jean Genet, comme il le raconte lui-même, se serait prostitué très jeune, soit du côté du parallèle, c'est-à-dire le quartier où à l'époque il y avait les cabarets plutôt chics et les théâtres, qui étaient l'endroit où on sortait au début du XXe siècle, ou dans les endroits beaucoup plus louches et troubles de ce qu'on appelait à l'époque le quartier chinois, le barrio chino, qui est où on se trouve en ce moment, et qui était voilà, très interlope, mais en même temps avec une grande liberté de mœurs.
Alors on va demander à Pierre Ducrozet ce qu'il peut nous dire sur Jean Genet, qui est arrivé à Barcelone un petit peu avant que les problèmes politiques finalement n'éclatent. Qu'est-ce que vous avez appris sur Jean Genet pour en faire une notice biographique dans votre ouvrage? Et puis je crois que vous avez aussi reproduit des pages de Journal du voleur.
Oui, oui, parce que c'est aussi, là aussi un grand livre sur Barcelone. La première partie est consacrée entièrement à Barcelone. Donc il arrive en 1932 et il découvre ce barrio chino dont parlait Mathias, qui est alors à l'époque pleine de poux et de rats et de joie de vivre et de bandits et de marins et de prostituées. Et voilà, qui est quelque chose d'assez fou. Et lui, il arrive, il rencontre un voleur, notamment Pepe, qui est Salvador, ensuite qui devient son ami, et surtout Stilitano, qui est figure absolument sublime, qui est un manchot. La scène, tellement Jean Genet, où au moment où Pepe, son ami voleur, plante le couteau dans la poitrine d'un des joueurs contre qui il avait perdu, l'homme tombe et il découvre le visage de Stilitano. Donc il dit Genet, je découvrais en même temps la mort et l'amour. C'est tellement Genet, c'est toujours cette imbrication des valeurs et ce renversement des valeurs.
Et donc, vous parlez des quelques pages justement que vous avez reproduites dans votre volume de Journal du voleur.
Donc il découvre cette figure là dont il s'éprend. Il se prostitue, raconte-t-il, hein. C'est vrai que Mathias Sénat le disait bien, on ne sait pas, mais peu importe, moi je suis la légende. entre la biographie et la légende, je prends la légende. Et il vit, voilà, il décrit très très bien ce barrio chino, qui là on peut se fier à lui. Donc cette vie, voilà, de ce quartier de pègre, ce quartier de délinquance, mais en même temps ce quartier fascinant.
On va s'éloigner peut-être un petit peu de la musique, ce qui nous permet aussi de nous mettre dans un autre coin de la bibliothèque. Mathias Sénard, vous connaissez peut-être ces endroits interlopes où Jean Genet allait quand il est venu ici, et notamment le cabaret qui s'appelait La Criolla, je crois. Ça n'existe peut-être plus, peut-être que ça existe encore.
Non, je n'ose pas dire malheureusement, mais ça n'existe plus. Bon, il faut dire que le quartier a bien changé. Hein. On parle d'il y a près d'un siècle. Même si pendant longtemps il y a eu des cabarets plutôt louches et interlopes, c'est vrai qu'il y en a un peu de moins en moins, ou alors des reconstitutions un peu touristiques de ce que ça pouvait être à l'époque. Et maintenant, c'est un peu les historiens qui s'occupent de ces endroits et qui les reconstituent et qui essayent d'en donner une image plus ou moins fidèle. C'est vrai que on raconte que la Criolla se trouvait juste au coin d'ici, là,
c'était El Carmen. Un endroit, un bar de travesti, qu'est-ce que c'était?
Oui, apparemment c'était tout simplement un cabaret pour danseurs travestis. Et il y avait tout un art, hein, du travestissement.
C'est une drag queen en fait.
Oui, de l'époque, c'était quelque chose où il y avait des vraies stars, hein, du déguisement, qui se produisait, qui chantait, qui dansait, donc habillé en femme, et qui était extrêmement connu, et dont la réputation allait bien au-delà de Barcelone.
Et alors, c'est cette criolla que fréquentait donc Jean Genet. On dit que ça a été une inspiration pour Querelle de Brest, par exemple, pour d'autres livres de Jean Genet.
Je pense que vraiment, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Edmund White dans sa biographie de Genet. Il voit dans l'expérience barcelonaise un des moments clés qui vont un peu illuminer toute son œuvre. Et même, c'est un peu dans tous les voyages de Genet, enfin, en tout cas de sa jeunesse, celui dont on pense qu'il a été le plus fécond, le plus fertile pour la suite de ses récits. Et oui, puis les rencontres comme ces personnages qu'on va retrouver un peu transformés dans toute son œuvre, comme ce fameux Stilitano qui est à la fois la laideur et la beauté, le danger, le plaisir, la marge, exactement, la frontière, l'autre, l'altérité, la différence et cette passion qu'on peut avoir pour autrui. Et c'est ça qui est absolument fascinant dans la description de Genet du quartier, c'est que c'est la fascination pour le mal et c'est en même temps la grande beauté, le grand plaisir qu'on peut avoir, la jouissance qu'on peut avoir dans la peur, dans la différence, dans la rencontre avec autrui.
Et Stilitano, c'est un beau Serbe qui est manchot. C'est important qu'il soit manchot, vous croyez ?
Oui, je pense que c'est extrêmement important qu'il soit manchot. Pierre a l'air d'accord avec moi.
Ah oui, parce qu'il parle beaucoup du fait que en coupant ce membre, peut-être que l'autre membre prenait une importance, en tout cas ses yeux plus fortes. Il le dit très bien. Il y a encore là un transvasement, un renversement chez Genet constant. Et toujours le haut, le bas, le stupre, la gloire, etc. Donc le fait que ce membre ait été coupé, pour lui, ça a un sens. Ouais.
Puis il y a aussi un clochard au visage couvert de vermine qui s'appelle Salvador.
Ça, c'est son premier amant et qui l'aime beaucoup. Et là encore, sa laideur, au bout d'un moment, devient beauté.
Ouais, parce qu'il ressemble à un Christ du Gréco.
Oui, ça, c'est ce qu'il n'y a que Genet pour écrire une chose pareille, aussi belle.
Oui, enfin, surtout parce que les Christs du Gréco, je ne sais pas si vous en souvenez, mais ils sont un peu taillés à la serpe, au couteau, quoi. Ils ont ce visage. Donc on imagine très très bien quelqu'un que la pauvreté aurait émacié au point de ressembler à un Christ du Gréco. Oui.
Là, il faut bien imaginer ce quartier. C'était vraiment... quelque chose, on pouvait difficilement le traverser cette rue sans en ressortir, pas vivant, mais en tout cas indemne.
Et c'était peut-être aussi le cas de la rue des voleurs, qui était une rue fréquentée par Genet, une rue qui a donné son nom, enfin qui est devenu le titre d'un de vos romans, Mathias Sénard, où vous avez d'ailleurs travaillé pendant 3 ans, puisque vous avez votre bureau là-bas. C'est juste à côté d'ici ?
Oui, c'est juste là derrière, à
50
mètres.
C'est pas trop dangereux si on y va ?
Non, pas du tout. C'est le cauchemar de la mairie. Cette rue, le morceau de rue qu'il y a entre ici et la Filmothèque de Catalogne, les initiatives de la mairie de Barcelone pour le transformer, le refaire, le débarrasser de ces voleurs, drogués, prostitués sont innombrables et aucune n'a réussi jusqu'à présent. Donc c'est un peu un espèce de miracle de l'anti-urbanisme qui fait que la ville reste rétive à sa propre planification. C'est-à-dire qu'on a mis là un des phares de la culture catalane, qui est la Filmothèque de Catalogne, qui était avant dans le nord de la ville, qui était descendue ici. Il y a un hôtel 5 étoiles à 50 mètres. Il y a la Rambla du Raval, qui est cette grande saignée dans le quartier, qui l'a aéré, lui a donné de l'air, de la lumière. Et malgré tout, cette rue continue à être un des endroits... Le quartier reste ce qu'il était autrefois, c'est-à-dire un des lieux de la prostitution sauvage, de prostituées qui sont extrêmement maltraitées le plus souvent par... des macros issus de l'immigration clandestine. Enfin, c'est pas du tout un endroit folklorique. Là, on est vraiment dans ce que la ville peut avoir de plus triste et de plus dur aussi. Des toxicomanes.
Vous y avez vécu, enfin, vous y avez travaillé pour observer aussi, j'imagine.
Non, c'était pas le but. Non, c'était un peu un hasard qui faisait que j'avais ce petit appartement dans lequel j'avais mon bureau. Et qui était là, voilà, par hasard, pas du tout, parce que la rue...
C'est pas d'abord la rue qui vous l'idée du titre, qui vous a donné l'idée de l'histoire, et vous avez dit, il faut absolument là pour écrire Rue des
Voleurs. Non, c'est l'inverse. J'étais là, et c'est en observant, justement, depuis ma fenêtre, ce qui se produisait en bas dans la rue, que j'ai eu l'idée des personnages de la Rue des Voleurs.
Alors nous, on fait de la radio, on ne fait pas de la télé, mais une fois, vous étiez avec une équipe de télévision allemande et on vous a jeté des œufs, donc je ne sais pas très bien si on va pouvoir aller vraiment tourner Rue des Voleurs.
Oui, alors c'est vrai que c'est encore un endroit j'ai envie de dire sauvage, au sens de Bolaño, des détectives sauvages. C'est un endroit où les gens n'ont pas forcément envie qu'on les observe, ont pas forcément, parce que généralement quand on s'intéresse à eux, c'est pour leur vouloir du mal, pour mettre des caméras de surveillance et pour augmenter les mesures policières. Et donc c'est un quartier qui est aussi très conscient de ses droits, où les gens cherchent à vivre mieux. Et donc ils voient pas forcément toujours les journalistes d'un bon œil. Pourquoi ? Parce que, eh bien, ils ont souvent diffusé, disons, une image un peu folklorico, on va dire touristique du quartier.
Ce qui est très marquant de manière géographique, c'est ce que tu disais, comment l'étau s'est resserré autour de cette rue qui est finalement le dernier reste de ce Barrio Chino qui est quasiment qui n'existe plus. Mais là, cette rue reste vraiment peut-être le dernier îlot de cette Barcelone disparue. Est-ce
que tu... Alors, n'écoutant que notre courage, je propose que nous y allions.
Exactement.
Je suis né à Paris le 19 décembre 1910, pupille de l'assistance publique. Il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'eus 21 ans, j'obtins un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. J'étais venu au monde au 22 de la rue d'Assas. Je saurai donc quelques renseignements sur mon origine, me dis-je, et je me rendis rue d'Assas. Le 22 était occupé par la maternité. On refusa de me renseigner. Je fus élevé dans le Morvan par des paysans. Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges où vécut Gilles de Rais, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s'inclinent sans s'incliner, mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Una pasión que no puedo ocultar, sábelo al fin. Que por ti solo siento adoración de ternura y de paz.
Mathias Sénard, Pierre Ducrozet, on a donc traversé la rue des voleurs, on va pas trop déranger les gens qui s'y trouvent, et donc on reste à l'entrée devant ce grand bâtiment qui est la Filmothèque.
Exactement, c'est la Filmothèque de Catalogne, l'équivalent de notre Cinémathèque, qui est un bâtiment qui a été ouvert il y a maintenant 4-5 ans et qui est très important pour le quartier puisque c'est le grand cinéma du quartier.
Alors, vous faites dire à votre personnage dans Rue des voleurs cette phrase qui m'a forcément fait penser à notre balade d'aujourd'hui. Il dit « Les villes s'apprivoisent, ou plutôt elles nous apprivoisent, elles nous apprennent à bien nous tenir, elles nous font perdre petit à petit notre gang d'étrangers, elles nous arrachent à notre écorce de plouc, nous fondent en elles, nous modèlent à leur image. » Est-ce que vous pourriez dire la même chose que votre personnage ? Est-ce que Barcelone vous a modelé au fur et à mesure ? Est-ce qu'elle vous a changé ?
Oui, je le crois de plus en plus d'ailleurs, que c'est non seulement nous participons à la ville, mais en même temps les villes nous transforment. Et bon, bien sûr, on acquiert des phonèmes, des langues quand on habite des villes étrangères, qui transforment un peu notre oreille, notre façon de voir le monde, une façon acoustique, des bruits différents, mais aussi des façons de se comporter, des façons de marcher, d'acheter, de manger, de boire.
Comme par exemple
Par exemple, pour être peut-être un peu plus concret, je pense qu'il y a un rythme des pas, par exemple, dans une ville. J'aurais remarqué comment on marche, par exemple, dans ce quartier, comment est-ce que les gens ont un côté un peu méditerranéen ou assez sud de se promener. On ne sait pas s'ils se promènent ou s'ils marchent. On se demande, par exemple, dans cette rue-là, alors qu'il fait très nuit, si les gens vont quelque part ou s'ils bougent pour se lier à une activité dont on ne sait pas si elle est licite ou non. Et donc, voilà, chaque endroit dit beaucoup de la façon dont on y vit. Et si on compare avec Paris, par exemple, on se rend compte très vite que notre corps, hein, pas même parisien est très différent de celui qui peut être quand on est à Barcelone. Bon, le climat n'est pas le même, bien sûr, la température, tout cela. Mais aussi, je pense, dans une, on se barcelonise, en fait, pendant quelques temps. Et puis, on se transforme comme ça un peu de ville en ville, d'époque en époque.
La ville, ça vous contraint aussi, ça vous oblige à vous arrêter au feu, ça vous oblige à traverser en même temps que les autres. Vous la ressentez un peu comme votre personnage, cette contrainte de la ville ?
Oui, alors c'est à la fois une contrainte physique, mais c'est en même temps une possibilité. Puisque la ville, c'est aussi la possibilité de la rencontre, du dialogue, de la culture, de tous ces lieux de communion urbaine que peuvent être les places, les bars, les cafés, les transports en commun, le moment où on fabrique de la mixité, où on fabrique du collectif, les manifestations. Ça, c'est la ville, bien sûr. Ça n'existe pas à la campagne, par définition.
Et vous, Pierre Ducrozet, en quoi Barcelone vous a-t-elle transformé ou contraint?
Bah en fait, elle a tout changé. En fait, elle a tout changé. J'étais une personne qui s'appelait Pierre et une autre personne est née ici qui s'appelait
Pedro,
Pierre. Oh, je sais pas, ils m'appellent comme ils peuvent. Mais en tout cas, j'ai tout changé, ma manière de marcher, ma manière de parler, bien sûr. Mais une nouvelle identité est née en fait, et c'est lié à ce qu'on disait, ce qu'on a dit tout le long en fait. C'est la liberté qu'il y a ici, la liberté de se réinventer, justement, de devenir. Et de croiser tous ces gens venus du Chili, venus d'Argentine, venus du Bangladesh, venus de partout. Et ça ouvre une oreille. Il y a cet appel du large qui est toujours là, qui, moi, a changé mon existence. Ouais.
Mathias Hénard, quelle est la meilleure heure pour se balader à Barcelone et en particulier peut-être dans cette rue ?
Ah non, ça dépend où. C'est-à-dire que cette rue change beaucoup selon l'heure du jour ou de la nuit à laquelle on y passe. Ce qui est très bien le matin. Le matin, c'est très différent le matin tôt, puisque il y a un marchand de poulets dans la rue, de poulets vivants, qui distribue des poulets vivants à un peu tout le quartier et tous les restaurants du quartier. Et donc les bruits des poulets dans leur cage, les plumes qui volettent, ça donne une ambiance très très différente de ce qu'elle peut être maintenant. Et puis cette obsession barcelonaise pour la propreté des trottoirs, où on arrose le matin et soir la ville comme ça pour la nettoyer, la débarrasser de sa possible crasse. Le passage de l'éboueur extraordinairement bruyant qui arrose toute la rue, c'est quelque chose d'assez impressionnant vers 5h du matin. Donc non, et puis je me souviens d'une nuit très calme vers 3-4h du matin. Avoir vu débarquer, alors pour quelle raison je l'ignore encore, une escouade d'à peu près une centaine de policiers massés dans un bout de la rue, qui eux-mêmes ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là. Donc il y avait cette rue juste éclairée un peu par le lampadaire, mouillée par la pluie ou le nettoyage, et des dizaines de flics qui attendaient quelque chose qui ne s'est pas produit.
Et vous attendez toujours de savoir pourquoi ils étaient là.
Oui, je ne sais pas, je l'ignore encore. Ça se produit assez souvent, hein, des événements comme ça, dont on ignore vraiment le sens, dont on se demande s'il n'est pas obscur pour tout le monde.
Là, ce qui est quand même très clair, c'est, je ne sais pas si tu as vu, Mathias, l'apparition quand même de cette urinoir pissotière publique, ouais, qui est quand même l'achèvement total de l'assainissement de ce quartier. Parce que ça aurait été totalement inconcevable il y a 20 ans, c'est arrivé, en face de la Filmothèque de Catalogne. Ces toilettes publiques.
Ça y est, on est dans une nouvelle ère, Pierre.
Oui, malheureusement.
Pour aller au dernier lieu de cette promenade, Pierre Ducrozet, Mathias Hénard, où il va être question notamment d'André Pierre de Mandiargues, je vous propose d'écouter un extrait d'archives dans laquelle Mandiargues parle justement de son roman qui se passe à Barcelone et qui s'appelle La Marge.
Je crois que c'est un de mes livres à la fois le plus dramatique et en même temps le moins fantastique, si je puis ainsi parler. C'est un livre dans lequel très peu de choses sont inventées. C'est un livre dans lequel la plupart des comparses, des personnages secondaires, des scènes de rue, des apparitions comiques ou cruelles que la ville de Barcelone dispense avec abondance à tous les gens qui y mettent le pied, toutes ces scènes-là sont vraies. Ce sont des choses que j'ai vues vraiment, des ivrognes, des putains, des nains, des apparitions monstrueuses, et tout cela que certains attribueront à mon imagination perverse, comme on dit, eh bien tout cela n'est pas inventé du tout, tout cela n'est pas de mon imagination, tout cela s'est trouvé dans la réalité.
pouvez nous parler de La Marge, Pierre Ducrozet?
Oui, alors c'est peut-être un des plus beaux romans sur Barcelone. La Marge, c'est l'histoire d'un Français qui arrive à Barcelone et qui est déboussolé, qui est pas bien dans sa vie. Il reçoit une lettre terrible dans laquelle un secret est inscrit. Il ne va pas l'ouvrir, il l'ouvrira qu'à la fin du livre, mais on devine que sa femme et son fils sont morts. Et il va petit à petit se déposséder de lui-même, se laisser dériver dans la ville, s'abandonner. C'est pour ça la marge, c'est vivre à la marge de soi-même. Et il s'abandonne dans ce quartier précisément dans lequel on est, dans le barrio chino de l'époque, le Raval. Et il se laisse dériver à la rencontre du petit peuple, du peuple des prostituées, des petits voyous, des délinquants. Et il y a une peinture de ce quartier absolument sublime. C'est à la fois très lyrique et très détaché. C'est-à-dire que petit à petit, il se détache comme ça de lui-même. C'est très beau. Il décrit ça avec beaucoup de... Oui, avec parfois une langue assez précieuse, mais très, très lyrique, très belle.
Alors là, on est justement près de la place Mandiargues. C'est un hommage des Barcelonais à ce livre, vous croyez, Pierre ?
C'est ça. Très clairement, c'est un hommage à La Marge, parce que c'est vraiment un chant d'amour, il le dit, c'est un chant d'amour à ce peuple vaincu, parce qu'il faut le dire, c'est à l'époque franquiste. Il parle souvent du furoncle, il ne l'appelle pas Franco, il dit le furoncle, qui est là, et le lieu de résistance numéro un, peut-être, à l'Espagne franquiste, c'est le Raval. Donc il est vraiment avec ce peuple vaincu et ce peuple fier et debout, il est avec eux.
Alors on a évidemment... beaucoup sillonné les quartiers les plus populaires de Barcelone. On n'a pas tellement parlé finalement des écrivains bourgeois. Est-ce qu'on pourrait classer Josep Maria de Segarra parmi les écrivains plus bourgeois, Pierre Ducrozet ?
Complètement, oui, oui. Il fait partie de tous ces écrivains dans l'entre-deux-guerres, qui les bourgeois de le quartier de l'Eixample, qui descendent dans les bas quartiers, donc comme celui de Raval, s'encanailler vers le parallèle aussi, vivre la vie des cabarets, la vie qui est vraiment la vie assez proche du Pigalle de ces années-là. Et donc il décrit cette vie très très bien dans Vie privée. Voilà, une vie fastueuse. C'est une époque où Barcelone quand même fleurit. On est après l'exposition universelle, l'économie revient et le plaisir et le divertissement. Il décrit très bien ces années-là.
Donc ça, c'est Vie privée, c'est le grand livre de Segarra. On peut le trouver en France chez Christian Bourgois. Il a été traduit du catalan par Nicole Pujol et préfacé par Juan Marcet. Autre écrivain catalan dont il faut souligner l'importance, Pierre Ducrozet, c'est Josep Pla. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui ?
Josep Pla, c'est peut-être l'écrivain catalan le plus important du XXe siècle. Il a une œuvre très profuse et protéiforme. Il est poète, il est romancier, je crois qu'il fait aussi il a aussi écrit du théâtre.
C'est un intellectuel total.
Voilà, c'est ça. Et son journal, donc Journal Gris, son journal est décisif aussi sur la vie culturelle, intellectuelle catalane. Il décrit ça très très bien. Il décrit très très bien la ville. C'est passionnant. C'est vraiment le contemporain capital de ces années-là.
Voilà, Cahier Gris, à retrouver chez Gallimard, traduit du catalan par Serge Mestre. Autre écrivain qu'on n'attendait pas forcément à Barcelone, quoique, c'est Monterland, Pierre Ducrozet.
Alors là, c'est le livre peut-être le plus joyeux, c'est-à-dire que Monterland arrive, il se définit lui-même comme un voyageur traqué, donc il fuit la vie française, il va en Italie, il va en Espagne, et il arrive, il est un peu en bagnaud, quoi. Vous voyez, il est là, je suis un Français, Monterland, j'observe l'Espagne. C'est à la fois très cocasse, parfois un peu grotesque, mais c'est très drôle, et ça commence par cette phrase sublime, et c'est « Barcelone compte 600 000 âmes et n'a qu'un seul urinoir ». Et donc tout commence comme ça. Vous imaginez comment cet urinoir
déborde,
etc.
C'est la muflerie de l'étranger,
ouais,
en balade.
Il a toujours une petite muflerie quand même, Monterland, en voyage. C'est-à-dire qu'il nous fait des grandes pages sur comment sont les Espagnols, alors qu'il vient de les découvrir la veille. Bon, j'exagère. Mais il rencontre, et il va donc dans le parallèle, cette grande avenue de cabaret, et il rencontre cette danseuse, donc la petite infante de Castille, qui donne son nom au titre du livre. Et il tombe éperdument amoureux d'elle, évidemment. Finalement, cet amour ne se consommera pas, mais...
Et la douceur de vivre,
ah oui, il est heureux.
De Barcelone.
Il est heureux, il ne veut plus partir.
Célébrez vous aussi, Pierre Ducrozet.
Monterland, il ne veut plus partir, finalement. Je ne sais plus pourquoi et pour quelle raison il doit finalement renoncer à Barcelone, mais il tombe littéralement amoureux de cette ville-là.
Ben merci, Pierre Ducrozet. Merci, Mathias Sénard, pour
beaucoup.
Cette promenade à Barcelone.
Merci
qui nous a donné envie, évidemment, de lire davantage d'écrivains catalans. Merci.
Merci à vous.
C'était donc notre balade littéraire dans les rues de Barcelone, réalisée à l'occasion de la sortie du livre Barcelone, paru début février chez Robert Laffont et dirigé par Pierre Ducrozet, un livre auquel a également participé Mathias Sénard, que l'on connaît comme l'auteur notamment du roman Boussole, prix Goncourt 2015, ainsi que du roman Rue des voleurs, deux livres disponibles chez Actes Sud. Demain, nous parlerons du regretté écrivain barcelonais Manuel Vázquez Montalbán en compagnie de Michel Gazier et en balade avec son fils Daniel Vázquez. Mais avant cela, et comme chaque jour, c'est la poésie avec Jacques Bonnafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Nous parlions hier d'Alain Borère à propos du Printemps des Poètes et d'une participation à la soirée Magnifique Printemps à Lyon. Le 10 mars, à l'invitation de Thierry Renard. Et ça tombe bien, car Thierry Renard a composé avec Bruno Doucet l'Ardeur, anthologie que nous feuilletons cette semaine, et nous trouvons à la lettre K comme Kamasutra, Alain Borère. Et ça tombe bien, car nous pouvons aussi annoncer une soirée le concernant à la Maison de la Poésie de Paris, le 26 mars, Poésie, Poétrie. Enquête menée par deux comédiens, Diane Dien, Sophie Bourrel et Jacques Bonnafé pour vous servir. Passionnaire, c'est composé de noèmes. Noèmes sont comme des pensées. Il faut savoir caresser le rien, nous avertit Eugène Guivic. Premier noème. En un mot commençant, le temps mort d'écrire, entre nous soit dit. Deuxième noème. Le désir, né du corps, meurt d'envie. Troisième, condamné à vie dans ce corps-là, je n'en sors qu'en toi. De nos jours, le poète n'est plus conducteur des peuples, écrit Alain Borère. Il est chauffeur de bus à Paterson, New Jersey, dans un film de Jim Jarmusch, et il écrit des vers libres en cachette, n'ayant aucune fonction sociale. Le poète a au moins une vie intérieure. La nuit d'amour se prolonge, tandis que je sommeille au loin, changeant sans fin de position. Autre noème, la courbe devient femme au bout du doigt de qui se perd à dessein. Une citation de l'autre et Hamon pour faire la pause. Les jugements sur la poésie ont plus de valeur que la poésie. Ils sont la philosophie de la poésie. La philosophie, ainsi comprise, englobe la poésie. La poésie ne pourra pas se passer de la philosophie. La philosophie ne pourra pas se passer de la poésie. Autre noème, corps à son, bouche bée d'amour, c'est par ton corps que passe la musique des sphères. Autre noème, nus au balcon, dans la nuit étoilée, jusqu'aux fleurs de midi. À la lettre E, effort, nous tombons sur un texte de Pier Paolo Pasolini. Je sais pourquoi je me réveille avec tant de force au cœur, la force d'absorber la nouvelle, la douce puissance du jour, réveillée avant moi, et d'exprimer avec les mots les plus découverts l'absolu déjà atteint en secret et en paix. C'est de la douleur. Ma douleur qui toujours a une raison, elle n'est jamais sans objet. Ce n'est pas une névrose, c'est de la colère, de la déception, de la peur, de la fureur qui physiquement, maintenant, m'ensanglante la poitrine, la gorge. Ah, matin, je le sais, c'est l'été, immobile comme une mer dans sa fraîcheur. La ville est prête pour une journée entière et ses bruits sont purs et affligeants, comme si les hommes étaient de fraîches colombes, de doux éléphants, des bêtes en vie.
Merci Jacques Bonnafé, en résonance avec la thématique du Printemps des Poètes, consacrée cette année à l'ardeur. Vous nous lisez des textes d'Alain Borère, de Pier Paolo Pasolini et de Léo Ferré.